إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous en sommes aujourd'hui au 38e précepte parmi les préceptes pré-islamiques abolis par la religion de l'islam que l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala a mentionné dans son livre Masail al-Jahiliya. Il a dit rahimahullah: Al-mas'alatu thaminatu wa thalathun al-ilhadu fi s-sifat ka qawlihi ta'ala: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Le 38e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est Al-Ilhad au sujet des attributs, que l'on pourrait traduire par la profanation des attributs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans sa parole, selon le sens rapproché, mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de choses de ce que vous faisiez. Donc ce qui est visé par les attributs ici, ce sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a affirmé pour lui-même dans son livre ou la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le sens du mot al-ilhad, à la base dans la langue arabe, cela désigne la déviance, le fait de se détourner de la droiture. Et ce qui est visé ici, c'est le fait de se détourner des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de les profaner, comme en les rejetant ou en niant ces attributs. Et il n'y a pas de doute que ceci est une forme de déviance de la vérité. Et les gens de la Jahiliya, ils profanaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les rejetaient et les niaient. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité: وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Vous ne pouviez pas vous cacher de sorte que ni votre ouïe, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous, mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de choses de ce que vous faisiez. Ils ont donc pensé qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas beaucoup de leurs œuvres. Ils ont donc nié l'attribut de l'ilm, l'attribut du savoir, qui est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que l'auteur rahimahullah ta'ala a visé par la mention de ce verset ici. Car l'ilm, le savoir, cela fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait toutes choses. Rien ne lui échappe, rien ne lui est caché parmi les œuvres de ses serviteurs ou toute autre chose. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala: Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait toutes choses. Il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui se passe, il sait ce qui va se passer, et il sait même ce qui ne se passe pas. Si cela se passerait, comment cela se passerait? Donc le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, il englobe toute chose. Et celui qui pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas certaines œuvres qu'il accomplit, alors celui-ci, il a profané un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le ilm, le savoir. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset: وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné. C'est-à-dire, c'est cette pensée qui vous a conduit à la ruine et à la perdition. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. De sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Donc ceci nous indique que quiconque nie un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'assimile en cela alors aux gens de la Jahiliya. Et il est concerné par la sévère menace qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a adressée. Donc toute personne qui renie les attributs de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, comme le font nombre de groupes égarés, à l'exemple d'El Jahmiya ou Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira ou Al-Maturidiya, ou autres encore, ils ont hérité cela des gens de la Jahiliya. Ils sont donc sous cette menace sévère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée dans le verset que l'on vient de citer. C'est-à-dire que cette pensée et cette négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce rejet les conduira à la ruine et ils seront du nombre des perdants. Et ceux car ils ont eu une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans la profanation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait de les interpréter d'une manière erronée en les détournant de leur sens réel. Comme le fait d'interpréter la main comme étant la puissance ou le bienfait. Ou autre parmi les interprétations erronées qu'ont mentionné les gens de l'innovation à ce sujet. Et entre également dans la profanation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de ne pas affirmer leur sens et de le renvoyer à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ces attributs, ils ont un sens qui est clair dans les textes du Coran et dans les textes de la Sunna. Nous devons donc croire en ces sens comme ils ont été mentionnés dans les textes. Et pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez revenir aux explications des ouvrages concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme notamment le livre du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala intitulé Al-Aqidatul Wasitiyah. Et je pense qu'il a été traduit par nombre de mes frères parmi les prédicateurs. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit Al-Mas'alatu at-tasi'atu wa thalathun Al-Ilhadu fil asma ka qawlihi ta'ala وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ. Le 39e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est la profanation des noms, c'est-à-dire des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans sa parole, selon le sens rapproché, et il mécroit au tout miséricordieux. Donc les gens de la Jahiliya, ils faisaient partie de leurs préceptes qu'ils profanaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils profanaient aussi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les renier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ, et ils mécroient au tout miséricordieux. Et Ar-Rahman, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu écrire le pacte d'Al-Hudaybiyah entre lui et les polythéistes, Suhayl ibn Amr est venu et a dit nous allons le mettre à l'écrit entre nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait venir le scribe afin qu'il écrive ce pacte et il a dit, c'est-à-dire lui ordonnant d'écrire, Bismillahir Rahmanir Rahim. Suhayl ibn Amr, il dit alors, quant à Rahman, alors par Allah, je ne sais pas qui il est. Et ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ils ont donc dit qu'ils ne connaissaient pas Ar-Rahman, si ce n'est Rahmanul Yamamah, c'est-à-dire Musaylim al-Kadhab, celui qui prétendait à la prophétie et qui se faisait appeler Ar-Rahman. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابَ. Il mécroit au tout miséricordieux. Dit, c'est-à-dire ô Muhammad, c'est lui mon Seigneur. Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf lui. Et en lui, je place ma confiance. Et à lui, je me repens. Également, il est rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, il priait et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Oh Allah, oh Rahman !» Alors les polythéistes, lorsqu'ils l'ont entendu dire ça, ils ont dit « Regardez cet homme, il prétend adorer un Dieu unique. Pourtant, nous l'entendons dire « Oh Allah, oh Rahman !» Il adore donc deux dieux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole قُلْ اِدْعُوا اللَّهِ أَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَانِ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, il a les plus beaux noms. Quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, ces noms sont les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont très nombreux. Et le fait qu'il a plusieurs noms, subhanahu wa ta'ala, cela ne signifie pas que ces noms désignent des dieux différents. Au contraire, ces différents noms, Il nous montre l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa perfection, et ce, de par son grand nombre de noms. Donc ce qui est visé ici, c'est que les polythéistes, parmi les gens de la Jahiliya, ils rejetaient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, quiconque renie les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font les groupes égarés parmi les gens de l'innovation comme les Jahmiya, ou rejette le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en en affirmant les termes, comme le font les Mu'tazila. Ou alors, nie certains parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et en affirme d'autres, comme le font à la Sha'ira. Alors tout cela ne sont que les héritiers des gens de la Jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé ses noms dans de nombreux versets dans son noble livre. Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Et Allah a les plus beaux noms, invoquez-le donc par ses noms. Et il dit subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa hu, lahu al-asma'ul husna. Allah, il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors de lui. Et il a les plus beaux noms. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, u'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. Je te demande par tous tes noms, ceux par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à un de tes serviteurs, ou que tu as descendu dans un de tes livres, ou que tu as gardé dans la science de l'inconnu auprès de toi. On voit donc à travers ce hadith que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont très nombreux. Parmi eux, il y en a qu'il a descendu dans son livre, et ceci est abondant dans le Coran. Nombreux sont les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne certains de ses noms. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rauf, Al-Tawwab, Al-Ghaffar, et ainsi de suite. Et parmi ces noms, il y en a qu'il a affirmé dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi parmi ces noms, certains qu'il a gardés dans la science de l'inconnu. C'est-à-dire que nous n'en avons pas connaissance. Et ce hadith nous démontre que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bien plus que 99. Car il y a des noms dont nous n'avons pas connaissance. Quoi qu'il en soit, le musulman doit savoir qu'il est obligatoire pour lui d'avoir foi aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et muslim rahimahum Allah ta'ala, inna lillahi 99 isma, man ahsaha dakhala al-jannah. Certes, Allah a 99 noms. Celui qui les recense entrera au paradis. Celui qui les recense, c'est-à-dire celui qui les apprend, comprend leur sens, les mémorise et œuvre d'après ce qui découle de ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les preuves à ce sujet sont très nombreuses dans le Coran et dans la sunna. Et quiconque ne croit pas au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou rejette certains de ces noms qui sont affirmés dans le Coran ou dans la sunna authentique, alors celui-ci, il a certes profané les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'est assimilé en cela aux gens de la jahiliya. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala, il dit Al-mas'alatu al-arba'un al-tahtil ka qawli al-fir'aun. Donc le 40e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, il dit c'est le ta'til, que l'on pourrait traduire par la négation, mais qui vise ici l'athéisme, comme la parole des gens de Pharaon. Donc ce qui est visé ici, comme on l'a dit, c'est l'athéisme. C'est le fait de rejeter l'existence du créateur de cet univers, et de dire que ce monde est le résultat du développement de la nature, ou autre chose encore, comme le prétendent certains parmi les athées. Et leur imam en cela, c'est qui? C'est Pharaon. En effet, Pharaon, qu'est-ce qu'il disait? Ya ayyuhal mala'u, ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Ô notable, je ne connais pas pour vous de Dieu autre que moi. Et il disait cela par orgueil et par entêtement, car en réalité, il savait que cet univers a un créateur. Mais son orgueil le poussait à rejeter cela. Et dans un autre verset, Ya Haman, ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أو هامان، bâti pour moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux et apercevrai-je le Dieu de Moussa, mais je pense que celui-ci est un menteur. Il reniait donc l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci est l'athéisme. Et en réalité, celui qui médite sur cela, il saura que la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et la raison saine démontre la fausseté de cette idéologie et la fausseté de cette parole. Car il n'est pas possible qu'une créature existe sans créateur. Il ne peut pas y avoir une action sans auteur de cette action. Et ce, en aucun cas. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à cette catégorie de personnes en leur disant, afin de les faire raisonner, « Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun » Ont-ils été créés à partir de rien ? Où sont-ils eux les créateurs ? Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Où ont-ils créé les cieux et la terre ? Mais ils n'ont plutôt aucune certitude. Ils ne peuvent pas répondre à ces questions en réalité. Car ils savent qu'ils sont incapables de créer, qu'ils ne se sont pas créés eux-mêmes, et qu'ils ne sont pas présents et existants sans créateur. Il est obligatoire qu'ils aient un créateur. Donc, s'il y a un créateur, qui est-il ? Est-ce qu'ils se sont créés eux-mêmes ? Est-ce que ce sont les divinités qu'ils adoraient qui les ont créés ? Il n'y a pas de doute que la réponse est non et que leur créateur est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu discutes avec un athée, tu verras qu'il te sortira toutes sortes de théories, toutes plus insensées les unes que les autres. Et ce, car ils ne détiennent aucun argument que cela. Et toute personne dotée d'une raison saine reconnaîtra d'elle-même la fausseté de l'idéologie des athées. Et celle-ci fait partie des préceptes de la jahiliya. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-mas'alatu al-hadiyatu al-arba'un, nisbatu al-naqa'isi ilayhi, subhanah, kal-waladi wal-haja, wal-ta'b, ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'di dhalik. » Le 41e précepte, parmi les préceptes des gens de la jahiliya, c'est le fait d'attribuer des imperfections à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'enfant, le besoin, la fatigue, tout en épargnant leur moine de certaines de ces choses. Il fait donc partie des préceptes des gens de la jahiliya qu'ils attribuaient des imperfections à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci s'oppose à sa seigneurie. À titre d'exemple, ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala l'enfant. Les juifs ont dit Uzair est le fils d'Allah. Les chrétiens ont dit Al-Messih, Jésus, Isa alayhi salam est le fils d'Allah. Et les polythéistes parmi les arabes, ils disaient que les anges sont les filles d'Allah. Pourtant, si tu médites sur leur situation, tu verras que les chrétiens, par exemple, ils rendent exempt leurs moines des enfants et des épouses, car ils considèrent ceci comme un défaut et une imperfection. Donc, ils en épargnent leurs moines, mais ils attribuent cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, les polythéistes parmi les arabes, comme vous le savez, avant l'islam, les polythéistes réprouvaient le fait d'avoir une fille. Et si on leur annonçait qu'ils avaient eu une fille, alors ils s'attristaient. Ils pouvaient même en venir à la tuer ou l'enterrer vivante, Wallahu al-musta'an. Malgré cela, malgré qu'ils réprouvaient cela, qu'ils considéraient cela comme un défaut, ils l'attribuaient à Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que les anges sont les filles d'Allah. Et le Shir al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il mentionne ici dans son explication une histoire que l'on rapporte concernant un savant parmi les savants des musulmans qui s'est rendu vers un des rois romains. Et lorsqu'il est entré, il lui a dit « Comment vont ton épouse et tes enfants ?» Alors, les gens présents ont été pris de colère. Ils ont dit « Comment peut-il qualifier leur roi en lui attribuant une épouse et des enfants ? Il est exempt de cela !» Alors ce savant leur a dit « Rahimahullah, vous épargnez votre roi de l'épouse et de l'enfant ?» Mais pourtant, vous ne vous gênez pas pour l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les a ainsi réduits au silence et les a laissés sans réponse à leur donner. Donc telle est la situation des gens de la jahiliya. Ils attribuaient des imperfections à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils s'en épargnent eux-mêmes ou en épargnent leurs moines ou les gens qu'ils révéraient, wallah al-musta'an. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, al-mas'alatu thaniyatu wal-arba'un, al-shirku fil-mulk, ki qawli al-majus. Le 42e précepte, parmi les préceptes des gens de la jahiliya, c'est l'association dans la royauté, comme l'ont dit les majus, les mages. Il fait donc partie des préceptes de la jahiliya de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans la royauté, comme l'ont fait les majus. Donc les majus, on pourrait traduire en français par les mages, ce sont un groupe de gens des pays perses qui adoraient le feu. Et ils prétendaient que cet univers a deux créateurs, le créateur du bien et le créateur du mal. Ils disaient que la lumière, elle a créé le bien, et que l'obscurité, elle a créé le mal, wal'iyadhu billah. Et c'est pour cela qu'ils ont été appelés les dualistes, car ils croyaient en l'existence de deux créateurs. Et ceci est du polythéisme dans la seigneurie. Et ils faisaient partie également de leurs idéologies, la permission d'épouser les maharim, c'est-à-dire qu'ils autorisaient l'inceste. Également, ils faisaient partie de leurs idéologies, le partage des biens et des épouses. Et ils ne reconnaissaient pour personne la propriété privée. Mais ils s'associaient dans les femmes, dans les biens, wal'iyadhu billah. Et c'est sur ces idéologies que sont aujourd'hui les communistes et les socialistes. Ceci est la base de leur idéologie. Il n'y a pas de doute que tout ceci sont des croyances et des idéologies qui sont erronées et qui s'opposent à la religion, mais également à la raison saine sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes. Toute personne sensée reconnaîtra que cet univers n'a qu'un seul créateur, et que ce créateur est unique, et qu'il a créé toutes choses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Il se pourrait qu'une personne fasse objection et dise alors, si tel est le cas, alors pourquoi le mal existe? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a des tremblements de terre? Pourquoi il y a des guerres? Et ainsi de suite. La réponse, elle est venue dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit «Zahara al-fasadu fil-barri wal-bahr bima kasabat aydin nas». La corruption est apparue sur terre. La corruption, c'est-à-dire les maladies, les tremblements de terre, les catastrophes, les guerres, et ainsi de suite. La corruption est apparue sur terre. À cause de quoi? À cause de ce que les gens ont commis de leurs propres mains, à cause de leurs péchés, de leurs mauvaises actions et de leurs œuvres mauvaises. Ce sont leurs œuvres qui sont la cause de la présence de ces maladies, de la présence de ces guerres, et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a également clarifié dans ce verset la sagesse de cela. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, afin qu'il leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. C'est-à-dire, afin de les châtier à cause de leurs péchés et de leurs mauvaises actions. Pourquoi? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Peut-être reviendront-ils. C'est-à-dire, peut-être qu'ils délaisseront ces mauvaises œuvres et qu'ils se repentiront à Allah, subhanahu wa ta'ala. Telle est donc la sagesse qu'il y a dans toutes ces choses que l'homme réprouve, comme les maladies, les guerres, et ainsi de suite. Il y a une sagesse immense en cela. Et médite sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset, afin qu'il leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. C'est-à-dire qu'il ne nous fait pas goûter tout ce que nous avons œuvré. Car sinon, il nous aurait anéantis et il n'aurait laissé plus aucune créature vivante sur terre. Car nos péchés, ils sont nombreux, Allah musta'an. Donc toutes ces choses, toutes ces calamités, toutes ces catastrophes qui se produisent, elles sont la conséquence des péchés que l'on commet. Il est donc obligatoire pour nous, lorsqu'arrive une calamité, une épreuve, de nous remettre en question et de nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'implorer son pardon pour nos péchés et de revenir à lui, repentant en multipliant les bonnes œuvres, afin qu'il repousse ces calamités et qu'il nous en épargne. On voit donc à travers ce verset que toutes ces choses que l'homme considère comme mauvaises, il y a en réalité en celles-ci des sagesses et des bénéfices immenses pour celui qui médite. Donc, l'univers et tout ce qu'il contient, il a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans aucun associé. Et le fait de lui donner des associés dans la royauté ou dans la création, ceci fait partie des préceptes parmi les préceptes des gens de la Jahiliya que la religion de l'islam a abolie. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala, et on continuera la lecture la semaine prochaine, bi'idhnillah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous, et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayra.